L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Vous recevez ce matin le président de la CFE-CGC.
Oui, François Omeril, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes sur le territoire depuis une dizaine de jours et que vous repartez ce soir. On va évoquer évidemment la question de la suspension des retraites. C'est un dossier que vous suivez de près en métropole. On va aussi parler de la situation évidemment en Nouvelle-Calédonie. Mais avant cela, peut-être rappeler ce qu'est la CFE-CGC, quel poids elle pèse aujourd'hui dans le monde syndical en métropole?
Ben écoutez, très bonne question. Merci de votre invitation. La CFE-CGC, c'est la quatrième organisation syndicale représentative. On pèse à peu près 180 000 adhérents et on a fait un peu plus de 600 000 voix dans le dernier cycle électoral. On en est très fiers parce qu'on est l'organisation qui progresse le plus depuis une douzaine d'années. Vous savez, souvent, les politiques nous font le reproche de ne pas être assez représentatifs. Eux-mêmes, qui, tout parti confondu, ont moins d'adhérents que nous-mêmes à la CFE-CGC, ils feraient mieux un petit peu de se concentrer sur leur périmètre. Et nous, on est très fiers de ça. C'est qu'on est en progression tant au nombre de voix qu'au nombre d'adhérents.
Et quels sont vos domaines dans lesquels vous êtes les mieux représentés, en quelque sorte?
Alors, on est représenté dans l'ensemble des domaines économiques.
Public et privé?
Public. Alors, dans le public, ça dépend. Il y a certains endroits où on est très bien représenté, notamment dans le domaine de l'État, de la sécurité, police nationale, domaine de la justice, dans tout un tas d'endroits, on est assez bien représenté. Dans d'autres endroits, on est plutôt faible, il faut le dire, en métropole, plutôt en progression. Il y a un endroit où on est très fort, c'est en Nouvelle-Calédonie. On est la première organisation syndicale sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie. J'en suis très fier, je le dis souvent à mes collègues, si vous voulez progresser, allez en Nouvelle-Calédonie, regardez ce qu'ils font, faites comme eux et vous allez progresser.
Alors François Omeril, vous connaissez la Nouvelle-Calédonie pour y être venu à plusieurs reprises. Votre dernier voyage, c'était en 2022. Vous savez ce qui s'est passé depuis, notamment la période insurrectionnelle de 2024. Quelle est votre appréciation de la situation aujourd'hui, telle que vous la percevez ou l'avez ressentie en rencontrant les interlocuteurs que vous avez pu rencontrer pendant votre séjour ?
En fait, moi, je vais vous dire, c'est très perceptible. C'est-à-dire que on est tout de suite frappé par deux choses. D'abord par le sourire et la gentillesse des gens, le fait qu'ils aillent vers vous, qu'ils soient très accueillants. Et par ailleurs, il y a à Nouméa tout un tas de bâtiments qui ont brûlé, qui ont disparu. Et puis, je discute avec mes collègues. Ils me font part des problématiques économiques, des activités qui se sont arrêtées, qui ne vont pas redémarrer, des gens qui sont partis. Donc, si vous voulez, il y a un peu cette confrontation entre la réalité d'une situation économique et sociale qui est vraiment très difficile, mais d'un autre côté, une motivation de la quasi-totalité de la population pour rebondir et repartir de l'avant. Et je pense que c'est tout ça qui caractérise aujourd'hui.
Alors si je résume et je caricature un peu, il y a peut-être cette volonté de repartir, mais il n'y a pas les moyens de le faire. C'est un peu le sentiment que les Calédoniens ont, et notamment il y a beaucoup d'inquiétudes sur les aides que l'État pourrait verser à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que là-dessus, vous pensez qu'on a été encore assez loin? Il faut progresser? Est-ce qu'il faut provoquer l'État? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'État assume ses responsabilités. Mais par ailleurs, il faut aussi que les acteurs sociaux, que les acteurs économiques dans l'île assument aussi leurs responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, pour prendre l'exemple du prêt garanti par l'État, qui est quand même aujourd'hui à un taux relativement élevé, moi, je ne vois pas comment on peut aider la Nouvelle-Calédonie en exigeant qu'il rembourse ce prêt-là. Il faut, à l'évidence, trouver une structure financière adaptée pour que ce prêt soit transformé en subvention ou en quoi que ce soit qui soit utile à l'économie, mais il faut à l'évidence soutenir la Nouvelle-Calédonie dans la phase qu'elle connaît actuellement, qui est une phase un petit peu critique où il faut restaurer des espaces de confiance. Vous savez, nous, on a fait à la CFE-CGC un document en 2022 qui s'appelait « Restaurer la confiance ». Eh bien, ça s'applique parfaitement à la situation en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui.
François Omeril, pour autant, on sait que la situation financière et budgétaire de la France est aussi compliquée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un effet en cascade, c'est-à-dire plus de sous dans les caisses de l'État, donc plus de sous pour la Nouvelle-Calédonie?
Oui, vous savez, J'ai 64 ans, je suis un vieux militant, ça fait 30 ans que je milite, ça fait des années et des années que j'entends nos gouvernants dire « il n'y a plus de sous dans les caisses ». Et les mêmes qui nous disent ça, ils s'acharnent à vider les caisses en créant de la dette sans la transformer en actif. Je pense que le problème, il est exclusivement politique. C'est aux politiques de prendre les décisions adaptées à la situation Et il faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, il faut que les politiques prennent des décisions adaptées, qu'ils aient une vision, une stratégie, qu'ils nous en parlent, et après ils vont motiver les corps intermédiaires, et ça va marcher. C'est pas plus compliqué que ça. Moi j'en ai marre d'être gouverné par des gens qui ne font que de la comptabilité. Si ça n'est que ça pour eux, faire de la politique, moi je leur conseille de faire autre chose.
François Aumeril, quelle aide, entre guillemets, la CFE-CGC peut apporter aujourd'hui dans la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie, alors que ce soit directement, que ce soit évidemment par le biais de l'UTCFE-CGC sur le territoire, quels sont les moyens dont vous disposez pour faire en sorte que les choses bougent et évoluent ?
Les moyens dont on dispose, ils sont liés au fait qu'on est représentatif de la population. Moi, je vois mes collègues ici qui travaillent, qui sont dans tous les groupes de travail. Moi, j'étais là 10 jours. Chaque journée, ils vont d'une réunion à une autre. Ils font des groupes de travail entre eux. On a parlé de la situation du nickel, de la situation de la filière du bâtiment, etc. De tout un tas de sujets sur lesquels, eh bien, il faut qu'il y ait des gens responsables qui s'impliquent. C'est le premier niveau, je dirais, de participation de l'UT CFE-CGC dans le dialogue social et économique aujourd'hui sur l'île. Et par ailleurs, de mon côté, du niveau de la Confédération, bien entendu, on est à la disposition de nos collègues, que ce soit à travers des formations, à travers des supports, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour les aider à faire ce travail au quotidien, bien sûr, on le fera.
Quel message vous allez passer à vos troupes, pardonnez-moi l'expression, lorsque vous allez rentrer en métropole ?
Bah, vous savez, il y a un an, notre président sur place, Christophe Coulson, est intervenu par visio avec le comité confédéral. C'était au mois de juin. C'était, je m'en souviens, très, très émouvant parce que...
C'était à
peine un mois. Il nous faisait part de la situation, très préoccupante à l'époque, hein, même si aujourd'hui, quand même, on commence à avoir un peu des issues, hein. Mais à l'époque, ils étaient, je pense, au pire de la crise. Et j'ai bien vu à quel point tout le monde était touché dans l'ensemble de notre organisation de deux choses. D'abord, du niveau de mobilisation, de conscience et de responsabilité qui était mis en œuvre sur place par nos collègues. Et par ailleurs, dès le début, des propositions qu'ils étaient en capacité de mettre en œuvre pour commencer à travailler, à reconstruire. Et donc, moi, le message que je voudrais leur passer, c'est de ne pas baisser les bras, parce qu'en fait, les concitoyens nous font confiance, ils vous font confiance, ils font confiance à la CFE-CGC, ils font confiance d'une manière générale aux membres de l'encadrement dans les entreprises. Ben, en fait, il ne faut pas les décevoir, il faut se montrer à la hauteur de cette confiance qu'ils nous donnent.
François Aumeril, un mot sur l'actualité en métropole, parce qu'on sait qu'il y a la préparation du budget 2026 et que dans ce cadre-là, cette nuit, les députés ont validé la suspension de la réforme des retraites. Alors, on se souvient que la CFE-CGC était opposée à cette réforme. Donc, vous considérez que cette suspension de la réforme est une bonne chose ?
Oui, bien sûr, cette suspension est une bonne chose. Après, je dois vous dire que les tractations politiques, je m'en tiens à distance, hein. Qui a demandé quoi, pour faire quoi, etc. Moi, je me méfie beaucoup de ces petits arrangements qu'il y a entre l'Assemblée et le gouvernement. Ce que je sais, c'est que cette réforme est une mauvaise réforme, qu'en vérité, elle n'a jamais été votée, elle est passée en force. Et moi, j'ai milité avec l'ensemble des organisations syndicales contre cette réforme. Pourquoi elle est mauvaise ? Parce qu'en fait, elle ne règle pas les problématiques de moyen et de long terme sur le sujet. C'est une réforme qui paye tout de suite et qui crée deux catégories. Des personnes qui sont touchées et des personnes qui ne sont pas touchés par la réforme. Donc, ce n'est pas une bonne réforme en tant que telle. Et elle ne règle pas les problèmes économiques, si tant est qu'il y ait de gros problèmes économiques sur la question de la retraite, ce qui n'est pas tout à fait mon analyse. Moi, je pense, pour finir là-dessus, que la question du financement des retraites n'est pas un problème systémique, c'est un problème de taux d'emploi. On a ce problème en France, et c'est très particulier par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est que les jeunes rentrent tard dans l'activité, et les anciens, en fin de carrière, ils sortent plus tôt. C'est-à-dire qu'on est confronté à ce paradoxe que les boîtes pratiquent principalement les grandes sociétés. Ben finalement, à partir de 55-58 ans, elles vous considèrent comme un has-been. Elles n'ont qu'une seule chose en tête, c'est vous sortir de l'activité et vous renvoyer sur le marché du travail, où de fait, vous êtes très démonétisé. Il faut s'attacher à regarder ces problèmes-là, les régler, et on réglera toutes les problématiques de retraite.
Mais est-ce que ça ne traduit pas une difficulté que rencontre un certain nombre de gouvernants depuis des années, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de changer ou de réformer un système qui a fonctionné depuis plusieurs années, on n'y arrive pas parce que les oppositions sont trop fortes, parce que chacun a son avis, parce que chacun pense qu'il faudrait faire autrement.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Moi, je pense que le dialogue social, c'est le respect des vérités de chacun. Voilà. Donc, on a l'habitude de le faire dans les entreprises, dans la fonction publique. Le dialogue social, c'est ça. Chacun sa vérité. Et il faut accepter le principe que la vérité de l'autre est différente et qu'on va trouver un moyen terme pour travailler et vivre ensemble. Le problème de nos gouvernements et de nos politiques en général, c'est qu'ils n'acceptent pas ça. Pour eux, c'est ce qu'ils pensent et rien d'autre. Et sinon, c'est la catastrophe absolue. Et à force de dire ça, on finit par angoisser tout le monde. Parce que nous, qui sommes dans les responsabilités, dans le dialogue social, on connaît un peu tous les ressorts de tout ça. Donc ça ne nous inquiète pas tant que ça. Mais il faut se mettre à la place du citoyen qui, lui, prend l'information en pleine poire et il ne comprend plus. Il a envie de faire confiance aux dirigeants. Mais les dirigeants, ils n'arrêtent pas de se contredire les uns les autres et de nous annoncer la catastrophe. Donc ça, c'est une très mauvaise chose. Moi, ce que je pense, c'est que sur la question de la retraite en particulier, mais d'autres réformes, eh bien, on nous propose rien de motivant, on nous propose rien de stratégique, on nous propose rien de pensé, d'articulé, qui intègre les positions de chacun. C'est toujours une vision comptable en disant c'est ça ou rien, c'est ça ou la catastrophe. Eh bien, ça, c'est plus possible.
Et aujourd'hui, vous affirmez que le régime des retraites n'est pas en si grande difficulté que ça ?
Ah, je l'affirme, bien entendu. Il y a, par contre, une problématique, pour le coup, en France en général, en métropole en particulier, sur le financement de la santé. Là, on a une problématique, il va falloir qu'on s'y penche, effectivement. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre dire il faut réduire les dépenses de santé. Mais quel est ce pays développé qui dépense 12,6% de son PIB en santé, là où l'Allemagne fait 12,8%, et là où les États-Unis font bientôt 18%, qui dit il faut réduire les dépenses.
Les systèmes ne sont pas les mêmes. Hein.
Mais je suis d'accord, mais pris globalement, mais les dépenses de santé, ben, c'est plutôt une bonne activité économique. L'activité qui consiste à venir au soutien des personnes pour améliorer leurs conditions d'accueil, leurs conditions de soins, ben c'est plutôt une bonne activité économique. On devrait s'en réjouir, en fait. Et la question, c'est pas tant les dépenses de santé, c'est comment on les finance, comment on les mutualise pour offrir un modèle social dans lequel on ne sera pas angoissé de tomber malade. Vous savez, il y a cette vieille phrase sur la sécu qu'il faut toujours avoir en tête. Elle me vient d'un grand-oncle à moi qui était agriculteur dans la Manche, qui avait une dizaine de vaches, et qui me disait, tu sais François, avant la sécu, nous, quand une vache, quand quelqu'un avait tombé malade, qu'il fallait acheter des antibiotiques, on devait tuer une vache. Eh bien, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire, c'est ce que la sécu, elle a apporté. Elle a apporté aux gens la sécurité face à la maladie. Et il ne faut pas revenir en arrière par rapport à ça.
Une dernière question, François Omeril, parce que tous ces débats ont lieu dans une période d'instabilité politique et parlementaire dont on voit mal l'issue aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir politiquement qu'il se passe quelque chose en France pour sortir de cette situation, de ce morcellement politique et qui crée des fameuses oppositions ou des vérités divergentes qui n'arrivent pas à se retrouver ?
Moi, je pense qu'un des problèmes principaux qu'il y a en France aujourd'hui, c'est que tout l'agenda politique est calé sur l'élection présidentielle. Et donc, on a ce sentiment que tout le monde s'attend pour ce rendez-vous quinquennal et que toute la politique à suivre va être dans le programme, dans le flyer de campagne de tel ou tel candidat. Moi, je pense que c'est une vision très régressive, en fait, de la démocratie. La démocratie doit être vivante. C'est une démocratie sociale dans laquelle les corps intermédiaires, justement, ils ont leur rôle à jouer parce qu'en permanence, ils sont en capacité de s'adapter et de proposer des solutions qui vont s'appliquer avec efficacité sur le terrain. Et je crois que notre monde politique est beaucoup trop polarisé. Nos élites politiques pensent qu'ils ont à eux seuls la solution à tous les problèmes. Et moi, j'ai envie de leur dire, lâchez un peu l'affaire. Voilà. Laissez-nous un peu d'espace, un peu de champ pour agir, pour nous-mêmes exercer nos responsabilités. Nous sommes représentatifs, nous connaissons la vie des gens, nous avons, nous aussi, des idées sur tout un tas de problématiques. Bien, si vous nous donnez un peu plus d'espace, vous, de votre côté, vous aurez un peu plus de facilité à gouverner.
François Omeril, président de la CFE-CGC, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être passé dans nos studios ce matin.
Merci.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.